Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
8h49 sur Sud Radio, bienvenue si vous nous rejoignez. Si vous vous réveillez tout juste en ce jour de la Pentecôte, férié pour certains, vous avez de la chance, travailler pour d'autres, bon courage. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 10h avec les grands débats du matin. Dans une dizaine de minutes, on sera avec Éric Revel. On parlera eh bien, du Conseil National de la Refondation voulu par Emmanuel Macron, Kézako. On verra ça avec lui, mais tout de suite, eh bien, c'est Arlette Chabot qui nous a rejoint. On va commencer, Arlette, par parler effectivement alors, de ces législatives. Plus que 5 jours de campagne pour les différents candidats partout en France et ce sentiment très clairement que ça se fait toujours encore dans l'indifférence un peu générale avec déjà du côté des sondages on prédit une abstention record, on a l'impression que c'est un phénomène un peu inéluctable actuellement.
Alors c'est surtout, il n'y a pas de campagne, voilà, on va redire ce qu'on a dit pendant l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de campagne, et alors là pour les législatives c'est encore pire. Alors il y a évidemment des petites campagnes sur le terrain, parce qu'il faut toujours dire que les législatives ce sont 577 élections différentes, évidemment, par circonscription, mais il n'y a pas de campagne nationale, même si au fond on a l'impression un peu de revivre la présidentielle, c'est-à-dire le bloc des trois, Emmanuel Macron qui finalement sort de son silence et anime la campagne de la majorité. Jean-Luc Mélenchon qui, lui, alors là, franchement, est parti très vite avec son idée de Élisez moi Premier ministre, qui au moins a un impact. Et espère-t-on chez les Insoumis ou chez NUPES aujourd'hui, va mobiliser les électeurs. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est de se dire, vous allez voter, ça peut servir à quelque chose. Il y a un espoir que la gauche ait une forte représentation, voire la majorité absolue à l'Assemblée. Et puis il y a une Marine Le Pen qui, elle aussi, conduit un peu la campagne, mais tout à fait en demi-teinte. Donc, au fond, ces législatives sont tout à fait dans le prolongement, ce qui est assez normal, de l'élection présidentielle. Mais il n'y a pas vraiment de campagne nationale sur des projets, il n'y a pas de débat, il ne se passe pas grand-chose.
Une grande ligne politique.
D'où l'indifférence et d'où l'abstention record, sans doute, supérieure à celle de 2017, qui était déjà très forte, où au premier tour, moins d'un électeur sur deux avait voté.
Et pourtant, il faut le rappeler, ces législatives, elles sont capitales pour l'avenir du pays, pour les 5 prochaines années, puisque c'est le gouvernement qui va mener la politique du pays.
Alors oui, le gouvernement, les projets, alors peut-être que les Français ont aussi le sentiment aujourd'hui, de toute façon, c'est l'élection présidentielle qui compte, qu'un président aura la majorité parce qu'il l'a toujours eu, et que finalement les députés, quand on vote pour des gens qui sont dans la minorité, ça sert à rien. Mais évidemment, c'est utile parce que, et c'est important pour le quinquennat qui vient, c'est de revivifier un peu le débat parlementaire, les discussions parlementaires. Et c'est la raison pour laquelle on s'interroge sur la proposition qu'on évoquera tout à l'heure du président de la République, d'un Conseil national de la refondation qui, effectivement, a l'air de marcher un peu sur les plates-bandes du Parlement, en tout cas qui ne renforcera pas les débats parlementaires.
Mais est-ce que ça joue pas aussi avec cette question qu'on se pose, majorité absolue ou pas ? Là, clairement, on a l'impression, au vu des sondages, même si ce ne sont que des sondages, que cette fois-ci, ça risque d'être compliqué d'avoir une majorité absolue, quel que soit d'ailleurs le groupe, que ce soit pour les macronistes ou encore moins peut-être, vu des sondages, pour la NUP.
Alors, pour la NUP, il n'y a pour l'instant aucune enquête d'opinion qui donne évidemment une majorité absolue. Du côté de la majorité sortante et qui espère la rester majorité demain, les sondages commencent aujourd'hui plutôt à évoquer la possibilité d'une majorité relative, voilà, ce qui obligerait parfois à trouver certains compromis qui ne seront pas trop difficiles à trouver avec les Républicains ou avec la droite sur certains projets qui pourraient être difficiles. Je pense évidemment à la réforme des retraites.
Bien sûr. Vous nous appelez en tout cas si vous voulez discuter, débattre avec nous 0826 300 300. Nous sommes avec Marie qui nous appelle des Landes. Bonjour Marie.
Oui, bonjour à vous.
Et bienvenue sur Sud Radio. Soyez la bienvenue.
Je vous remercie.
Moi, j'espère que vous allez bien.
Je vous remercie beaucoup. donc, en partie d'accord avec les propos d'Arlette Chabot à l'instant même. Disons qu'elle a oublié de dire que lorsqu'il y avait une abstention record de plus de 50%, les partis sélectionnés pour le second tour doivent avoir au moins 25% des suffrages. Donc ça pose un double problème à Renaissance, en ce sens qu'ils ont 97 dissidents devant eux Donc probablement une impossibilité sur ces 97 candidats d'être au second tour, d'abord. Ouais. Donc ça donne une idée d'une impossibilité d'une majorité absolue. Et quant à la majorité relative, je suis aussi un peu sceptique. Je ne pense pas que la NUPES ait une majorité absolue. Mmh. Pas du tout. Je pense que des candidats de droite, ou même, je pensais même pas pour le Front National, pour le Rassemblement National, je pensais même pas qu'il ouais. aurait un groupe. Et puis maintenant, au vu de ce qui se présente, je crois qu'il y aura de grosses surprises et que Emmanuel Macron ne pourra pas mettre en place le programme des retraites tel qu'il le veut à l'heure actuelle. Mmh. Et puis il y a la plupart des Français ne savent même pas que c'est le 12 et le 19 juin.
Oui, non mais ça c'est oui. C'est une bonne question aussi.
Les élections législatives, c'est quand je dois dire que mon fils m'a posé la question, j'étais horrifiée, mais c'est comme ça, et pourtant il va voter, il ne se rappelait plus que c'était le 12 et le 19. Bon, ouais. voilà, dans ma propre famille, ben voilà. Donc, si dans ma propre famille, des gens qui vont voter ne savent même plus que c'est le 12 et le 19, je pense qu'ailleurs, ça doit se produire aussi.
Donc, mais on le voit effectivement, oui. Mais...
Donc je pense que les sondages à l'heure actuelle, avec des... j'insiste sur les implications locales, parce qu'on donne des sondages à 25 nationales, c'est pas du tout ça. Dans une implication locale, ce sont des gens qui ont leurs adhérents, ce sont des communes qui votent massivement à gauche, massivement à droite, etc. Or vous savez que justement, la plupart des écologistes ont eu des villes importantes, que les régions ont été données en partie aux socialistes et en grande partie à droite. Tout cela peut jouer sur des élections locales où ils ont quand même une emprise très importante. Et cette analyse, elle n'est pas faite correctement.
Bah merci beaucoup, voilà. Marie. En tout cas, c'est vrai qu'on en parlait avec un autre auditeur de Sud Radio, Abdelhak, qui est avec nous à 7h35, qui nous disait effectivement qu'il trouvait que les Français n'étaient pas assez bien renseignés. Bah là, Arlette Chabot, on a Marie qui suit particulièrement l'actualité.
Alors Marie, elle est
politique.
Au top du suivi. Ouais, elle
Merci
a tout à
vous,
fait
Marie.
Raison. Parce que la conséquence de l'abstention, c'est vrai qu'il faut un haut niveau, 25% pour avoir une qualification à peu près pour le second tour. Et j'entendais tout à l'heure Manuel Bompard qui était invité,
À 8h15 avec nous,
qui souligne qu'au fond, il y a la compétition. C'est celui qui, le camp qui mobilisera le plus ses électeurs.
Ses électeurs.
Donc on voit bien, c'est ça. C'est celui qui peut mobiliser. Donc la bataille, elle est là pour obtenir une qualification pour le second tour, d'où l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, qu'on devrait entendre à nouveau cette semaine avec une ou deux sorties du président de la République qui mène cette campagne pour la majorité sortante, évidemment. On entend beaucoup Jean-Luc Mélenchon qui lui aussi fait campagne, et tandis que effectivement les autres sont un tout petit peu moins audibles, et c'est surtout les questions qu'on se pose sur la stratégie choisie par Marine Le Pen pour ces élections législatives, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que le RN a un peu baissé les bras. Du coup, on devrait avoir effectivement, je ne sais pas si ça atteindra 500 circonscriptions dans lesquelles il y aura un duel entre un représentant d'Emmanuel Macron et un candidat de la NUPES.
Merci Arlette Chabot, vous restez avec nous bien sûr Arlette, et puis vous tous, vous nous appelez bien sûr 0826 300 300 si vous voulez évoquer un sujet à l'antenne, et pourquoi pas d'ailleurs tenez le Conseil National de la Refondation que veut lancer Emmanuel Macron. En tout cas, on en parlera, on vous expliquera ce qu'il en est, ce que ça implique avec Éric Revel dans un instant, juste après les infos. A tout de suite sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
8h06 sur Sud Radio. Arlette Chabot est toujours avec nous pour continuer les débats, bien sûr, jusqu'à 9h30 avec également vous, 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus, comme toujours. Mais tout de suite, c'est Revel en campagne. Bonjour Éric Revel.
Bonjour Monsieur Glaise, bonjour Madame Chabot, bonjour à tous.
Ce week-end, Emmanuel Macron, Éric, a annoncé donc le lancement d'un Conseil National de la Refondation. Bon, déjà, de quoi s'agit-il ? Expliquez-nous un petit peu.
Oui, alors déjà, il faut quand même rappeler, hein, que pour démontrer que sa méthode de pouvoir est moins jupitérienne, hein, moins verticale, que les ordres tombent moins de Paris vers les territoires ou moins des élites vers le peuple, eh bien, Emmanuel Macron a donc annoncé la création de cette structure. Alors, Conseil national de la refondation, on en a déjà un peu parlé, hein, une instance de débat avec des membres qui seront tirés au sort. Et un conseil qui devra s'emparer de thèmes aussi divers que le pouvoir d'achat, la réindustrialisation, la santé, l'écologie. Bon, c'est beau comme l'antique, hein. Le Conseil national de la refondation joue aussi, bah, évidemment, tout le monde l'a noté, sur l'histoire de France, en rappelant évidemment furieusement le Conseil national de la résistance à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Un organisme de débat donc avec des citoyens, des associations et des élus, mais on a déjà des lieux de débat en France. Eric, il s'agit que de la communication finalement de la part de l'Élysée ici.
Franchement, Benjamin, lancer une telle structure à une semaine des élections législatives, c'est quand même très offensant, je trouve, hein, pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat, pour les députés, pour les sénateurs. Le Conseil national de la refondation, bah, pour l'instant, oui, c'est une sorte d'artifice de communication élyséen qui cache mal quand même le vide du programme politique d'Emmanuel Macron. Il dit qu'il va tester des idées, mais on a l'impression qu'il va à la pêche aux idées avec la création de ce Conseil national de la refondation. Alors, un nouvel organisme de débat, vous l'avez dit, Benjamin, avec ce Conseil de la refondation, mais on en a plein. Le CESE, le Conseil économique et social et environnemental, dont on annonce d'ailleurs régulièrement la disparition, tellement il coûte cher et qu'il ne sert pas à grand-chose. Vous avez aussi des lieux de débat qu'a lui-même lancé Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat. Par exemple, la Convention citoyenne sur le climat, vous en souvenez, dont les conclusions d'ailleurs ont été oubliées en route. Hein. Emmanuel Macron, bah oui, il occupe le terrain avec la communication, mais communication n'est pas action, communication n'est pas programme politique.
Et comment alors, Eric, va être mis en place Conseil national de la refondation? C'est quoi les prochaines étapes?
Alors c'est là aussi où c'est assez drôle, hein. À l'impulsion présidentielle, hein, passez-moi la formule, doit suivre la mise en musique de la première ministre Elisabeth Borne, hein, qui aura la responsabilité de cette, pour l'instant, coquille vide de Conseil national de la refondation. À elle donc de lancer ce CNR, Macron lui refile en quelque sorte la patate chaude. Et puis Emmanuel Macron a promis d'être moins jupitérien, je vous le rappelais, de mettre en place une nouvelle méthode de gouverner. Vous en souvenez dans son discours d'intronisation le 7 mai dernier. Mais en créant ce CNR, il s'amuse à mon sens doublement. Il s'amuse d'abord avec l'histoire de France, en pastichant donc le Conseil national de la résistance, comme si d'ailleurs, pardonnez-moi, même si ça a été terrible, comme si la crise sanitaire et la crise en Ukraine étaient comparables à la catastrophe planétaire de la Seconde Guerre mondiale. Mais Emmanuel Macron s'amuse aussi avec des symboles tutélaires, hein, parce que n'oubliez pas que c'est le général de Gaulle qui a mis en orbite le CNR, le vrai, hein, le Conseil national de la résistance, dont il confia les rênes à Jean Moulin. Hein. Donc Macron, le voici non plus jupitérien, mais en De Gaulle, et il transforme Elisabeth Borne en Jean Moulin, on croit rêver. Alors ce nouveau Conseil Théodule de la refondation est présenté par l'entourage du chef de l'État comme une révolution culturelle, rien que ça. Il est vrai que le livre programmatique d'Emmanuel Macron, candidat en 2017, s'appelait « Révolution ». On se mouche pas dans son coude à l'Élysée. Hein. Donc je résume, la guerre, la résistance, la refondation, Emmanuel de Gaulle, Elisabeth Moulin, à force de se payer de mots et de tout mélanger, le pouvoir brouille encore un peu plus les pistes d'une France qui cherche son avenir.
Et ben voilà qui est dit, Éric Revel, merci. Et on va en parler, en débattre justement de ce Conseil national de la refondation qui fait effectivement beaucoup réagir avec vous, Arlette Chabot. Tout d'abord, on entendait à l'instant Éric Revel qui est revenu sur eh bien, ce que sera finalement ce Conseil national de la refondation. Déjà un mot sur ce qu'il disait au début, sur cette offense lancée finalement aux députés, aux sénateurs à une semaine du premier tour des législatives. C'est vrai que c'est surprenant de dire à une semaine d'élection que ceux qu'on va élire auront finalement... un peu moins de pouvoir.
Oui, alors, la vraie question, outre, on ne comprend pas très bien comment va fonctionner cette usine à gaz que veut inventer, mettre au point le président de la République, mais surtout, c'est la répartition du pouvoir. Qui décide de quoi? Effectivement, il y a un Parlement, de quoi va-t-il débattre? Théoriquement, il examine les lois, il y a un pouvoir d'initiative, il y a des propositions de loi. Mais alors, est-ce que ces propositions de loi venant du gouvernement qui lui-même serait inspiré par des propositions, des choix de ce conseil de la refondation. Et c'est vrai qu'à côté, une institution dont le président aurait dû annoncer la disparition, c'est effectivement le Conseil économique, social et environnemental. Parce que s'il ne sert à rien, Eric le rappelait, il coûte cher, donc il faut le supprimer et dire bah, on fait une autre instance avec effectivement des représentants, des élus, des citoyens tirés au sort, des associations, des syndicats, bref, tout ce qu'on retrouve déjà dans le CESE. Donc, qui va décider de quoi ? Alors, on a l'impression que le président dit effectivement, je ne suis plus Jupiter, je gouverne autrement. Mais au bout du compte, avec toutes ces instances, on a quand même l'impression que ce sera toujours Emmanuel Macron qui décidera tout seul.
Et Éric Revel, alors vous avez parlé tous les deux avec Arlette Chabot de ce Conseil économique, social et environnemental, c'est le CESE. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, d'une certaine façon, c'est aussi le jeu de la démocratie locale, normalement, de faire remonter justement les volontés des citoyens, les attentes en tout cas politiques des citoyens. Est-ce que finalement, ce Conseil national de la refondation, il ne s'ajoute pas finalement à cette démocratie locale qu'on met encore une fois de côté, peut-être ?
Non, mais on est en plein délire, pardonnez-moi, mais on est en plein délire. Hein, parce que,
ouais, parlons
parce
vrai
que
sur
le
ce
CESE, Arlette Chabot le rappelait, le CESE, on annonce régulièrement sa disparition, parce que je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le palais d'Iéna où siège le CESE, mais c'est un patrimoine immobilier, un budget de fonctionnement absolument colossal. Et la plupart des journalistes dont j'ai fait partie qui recevaient les rapports du CESE, vous savez où s'ils les mettaient ? Non, pas où, pas, non, pas là, ils les mettaient plutôt à la poubelle. C'est-à-dire que souvent le CESE débat de thèmes d'actualité qui intéressent pas grand monde, et ils sont totalement inaudibles. Hein. C'est la troisième assemblée française, le CESE, il ne faut jamais l'oublier. Derrière l'Assemblée nationale ou le Sénat, vous avez le CESE. Qui en parle ? Qui sait de quoi il s'agit ? Personne. Donc on va créer, Emmanuel Macron veut créer une nouvelle structure, je ne sais pas, j'appelle ça un comité Théodule de la refondation, alors que vous avez déjà en place des choses qui pourraient fonctionner et qui pourraient lui remonter les débats dont il a besoin. Puis moi, je doute, comme l'a dit Arlette, je doute que si même... il y avait des conclusions avec ce Conseil national de la refondation qui l'en tiennent finalement compte. Parce qu'encore une fois, la Convention citoyenne sur le débat écologique et sur le climat, on a vu comment on a trié au plus haut niveau de l'État le bon grain et l'ivraie, les bonnes propositions et celles qui étaient perçues comme moins bonnes par le pouvoir. Bon, et puis, je me suis amusé un peu ce matin, alors j'espère que ça vous a fait sourire quand même, parce que ce Conseil national de la refondation, évidemment, ça s'est fait pour ça, ça a sonné immédiatement aux oreilles de tout le monde, Conseil national de la résistance, voilà.
Bien sûr.
Mais il a été créé par le général de Gaulle, dont il a confié les rênes à Jean Moulin à l'époque. Comparaison n'est pas raison, encore une fois. J'espère que vous avez apprécié mon Emmanuel de Gaulle et mon Elisabeth Moulin.
Je l'ai bien retenu, effectivement. Allez-y, Arlette Chabot.
Parce que, Eric, il y a aussi une différence fondamentale, c'est que le CNR, on était effectivement en sortie de guerre, si j'ose dire, et tout le monde était d'accord pour travailler ensemble à la reconstruction de la France. Là, cette situation n'a rien à voir. Il n'y a pas une recherche de consensus, au contraire. En plus, il
veut peut-être l'imposer, ce consensus, justement.
Mais, d'accord, mais on peut rechercher un consensus.
Ça discute.
Je suis d'accord avec
à
vous.
À l'origine, ce n'est pas ça. On est en plus en pleine campagne électorale où, justement, des projets s'affrontent. Vous n'imaginez pas demain, Jean-Luc Mélenchon a une envie formidable de travailler avec les marcheurs ou les responsables de la majorité pour établir un programme commun auquel on associerait aussi les Républicains en se disant on va reconstruire la France ensemble. C'est pas du tout l'état d'esprit du moment, au contraire. Alors, si c'est un moyen pour le président réélu de combattre les radicalités et les extrêmes droites et extrêmes gauches, je pense que ça ne marchera pas. Donc, encore une fois, l'état d'esprit est totalement différent de celui de la libération française.
Oui, Éric Revel, pour conclure là-dessus.
Oui, voilà, je m'incline devant la pensée chabotiste. Tout est
la
clairement
bien
dit.
Ouais.
Alors, je vais vous dire, en fait, il faudrait essayer de comprendre, si on avait un peu de temps, mais on en manque souvent, il faudrait essayer de comprendre le cheminement de la pensée du président de la République. Parce que, franchement, c'est extrêmement complexe. Je vous rappelle la séquence. Hein. Il n'a pas défendu son bilan au premier tour parce qu'il n'a pas fait campagne. Il n'a pas annoncé de vrai programme politique, à part vaguement une réforme des retraites sur laquelle on fait marche arrière, on fait marche avant. Il a annoncé aussi dans la PQR, hein, vous avez vu qu'en à l'été 2023, tout serait réglé. Hein. Allez hop, tout serait réglé. Débat ou pas débat, Conseil national de la refondation, l'immigration ou pas. Donc en fait, enfin moi en tout cas, j'ai modestement, j'ai beaucoup de mal à suivre la pensée jupitérienne et élyséenne qui doit totalement me dépasser et la séquence logique de tout ça. En fait, on voit pas vraiment où Emmanuel Macron nous mène, ce qu'il veut faire passer comme message, là où il veut emmener la France. Et c'est ça qui manque. On n'a pas de grille de lecture. On a l'impression toujours qu'on est dans le brouillard, on se paye de mots, on est dans la communication, on occupe le terrain, mais il se passe pas grand-chose. Encore une fois, on n'a pas pu discuter du bilan d'Emmanuel Macron puisqu'il n'a pas fait campagne. Ouais. J'ai pas tout compris ou j'ai même pas compris grand-chose du programme politique de ce deuxième quinquennat. Il lui faut une majorité, mais pourquoi faire à l'Assemblée nationale ? Je vous rappelle qu'il a fait signer une charte aux députés qui auraient l'investiture Renaissance, ouais, La République En Marche, en leur disant « vous serez toujours d'accord avec moi, sinon je vous donne pas l'investiture ». Enfin, c'est quand même très troublant et très, comme disent les Anglais, confusant. Enfin, moi, Arlette Chabot, il voit sans doute plus clair, mais moi, je vois pas vraiment la ligne, le traceur de tout ça.
On va terminer justement avec vous, Arlette Chabot, vous y voyez pas plus clair, c'est ce que vous disiez par rapport à la stratégie de Macron.
C'est à contre-temps, voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'au lendemain de la séquence électorale, présidentielle, législative, le président aurait pu dire maintenant, voilà, ça y est, les choses sont claires. Ce que je veux, c'est réconcilier les Français, chercher effectivement du consensus sur les réformes et annoncer à ce moment-là, s'il veut, une nouvelle instance. Mais en ce moment, alors que le combat est engagé et que lui-même cible à la fois les deux extrêmes, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, qu'il ne faut pas oublier, tout ça semble effectivement totalement bizarre, étrange et en tout cas suscite plus de questions que n'apporte de réponses.
Merci à vous Arlette Chabot, Éric Revel, vous restez avec nous, on parlera d'un autre sujet bien sûr qui concerne beaucoup de Français, le bilan des intempéries ce week-end avec un viticulteur depuis le Gers qui sera avec nous et puis à 9h18 plus léger quand même, c'est important, on vous fait des cadeaux à Sud Radio, en l'occurrence sacré cadeau puisque vous gagnez un séjour pour 4 personnes en famille ou entre amis au parc Astérix, 2 journées d'accès consécutives au parc, une nuit d'hôtel dans une chambre familiale, petit déjeuner et dîner, allez c'est cadeau, la tête dans les nuages avec Tonnerre de Zeus, avec aussi le nouveau défilé gaulois, en tout cas vous nous appelez pour gagner ce séjour au parc Astérix, un numéro 0826 300 300, c'est Aude qui vous attend au standard et c'est Arlette Chabot qui va nous donner un numéro entre 0 et 20 qui gagnera entre 0 et 20,
combien de
appels, le 14e appel est gagnant, on espère que Arlette Chabot vous portera chance. En tout cas, bonne chance à vous. Très bon réveil avec Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise.
9h23 sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h dans le Grand Matin avec Arlette Chabot et Éric Revel qui sont toujours là avec nous jusqu'à 9h30. Et puis ensuite, on parlera de la corrida avec un sondage exclusif qu'on vous dévoile ce matin sur Sud Radio. Pour ou contre, on verra ça dans quelques instants. Mais tout d'abord, on revient avec vous, bien sûr, Arlette Chabot, Éric Revel et notre invité sur ce bilan des intempéries, notamment dans le Gers. C'est notre invité qui est avec nous, Vincent Piquemal, qui est viticulteur du domaine de Danis à Castelnau-d'Auzan-la-Barrère. Bonjour.
Bonjour.
Dans le Gers, donc, département fortement touché par ces intempéries du week-end. Expliquez-nous, du côté de votre domaine, quels sont les dégâts ?
Tout à fait. Donc, c'est un orage de grêle qui s'est présenté, c'était vendredi vers 19h50, et qui a été d'une intensité que j'avais jamais connue à ce jour. Puisqu'on a des grêlons qui étaient à peu près de taille de balles de ping-pong ou balles de golf. Ça a duré environ 10 minutes, donc c'était de la grêle sèche, il n'y avait quasiment pas de pluie au milieu. Et suite à ces 10 minutes, ça a été la désolation. C'est-à-dire que d'une végétation qui était la végétation que vous pouvez connaître sur un vignoble en plein été, comme tout le monde peut se l'imaginer, on se retrouve en plein hiver où tout a été détruit. Il ne reste plus que les souches et le reste est parti en fumée.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout.
Personnellement, sur notre domaine, que j'exploite avec ma sœur, il n'y a plus rien.
J'imagine que quand on voit ça en si peu de temps, la violence de cet épisode de grêle, j'imagine que finalement, c'est très compliqué à vivre d'une certaine façon.
Oui, c'est
on arrive à envisager l'avenir, à se projeter déjà, ou là, on ne peut même plus y penser.
On est obligé parce qu'on est vigneron dans l'âme, donc on a une certaine résilience. Vous savez, il faut avoir les nerfs bien accrochés puisque c'est pas le premier cataclysme qu'on a, puisqu'en 2020 on avait été gelé, perte de 83% de récolte. 2021, 85% de perte, et là cette année 100%. Alors vous allez me dire, vous savez pas comment on peut arriver à continuer à vivre. Alors jusque là on avait les assureurs qui nous suivaient, mais maintenant c'est plus le cas.
C'est-à-dire?
Ben, si
c'est trop
voulez,
risqué.
Le problème. Non, c'est pas que c'est trop risqué. C'est-à-dire que on est assuré sur l'exploitation, mais le problème, c'est que les assureurs ont mis en place des systèmes de calcul qui font qu'ils se basent sur des références d'années antérieures, et dans ces années antérieures, ils remontent des années sinistrées. Donc, ce qui veut dire que je me trouve avec, j'assure au lieu d'assurer 90 100 hecto-hectares, ce qu'on fait habituellement, j'assure péniblement 45 hecto-hectares. Donc, en fait, je couvre à peine 50% de mes charges de production.
Vincent Beekmalle.
J'appelle pas ça être bien assuré.
Vincent Beekmalle, nous sommes avec nos éditorialistes Arlette Chabot et Eric Revel. Eric Revel, peut-être une question, un mot par rapport justement à ce drame qu'a vécu ce week-end.
Oui,
on l'a entendu, Vincent.
C'est sûr que les assureurs sont peut-être enclins, à cause du niveau des primes d'assurance et de la sinistralité récurrente, à assurer moins. Mais nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, se rend sur place, je crois d'ailleurs dans votre département. Est-ce que vous ne nous attendez pas à de nouvelles subventions et aides d'État? Et puis ma deuxième question, c'est, mais au bout d'un moment, quand on a l'amour du terroir et de sa vigne, finalement les subventions, c'est pas tout non plus.
Et Vincent, non. Vous disiez que le ministre sera chez vous.
Oui, tout à fait. Tout le ministre est attendu à 12h30 au domaine.
D'accord. Et alors, par rapport aux réflexions, justement, à la question d'Éric Revel à l'instant.
Oui, alors, les subventions, c'est bien, mais je veux dire, les subventions, vous savez, l'an dernier, il a été débloqué à 1 milliard. Et ce milliard, quand vous le répartissez sur l'ensemble du vignoble français qui avait été impacté par le gel, quand vous le ramenez à l'hectare ou au niveau de l'exploitation, ça donne rien, quoi. Donc c'est pas avec ça qu'on peut arriver à s'en sortir. Je pense que ce qu'il faut arriver à repenser, c'est le système assurantiel. Je sais que le gouvernement y travaille actuellement, puisque le député de Crozaille avait fait une étude là-dessus, où il partait sur une, comme disait le précédent ministre de l'Agriculture, une fusée à 3 étages. La partie basse, mais c'est le viticulteur qui assume la perte, c'est ce qu'on pourrait appeler la franchise. Après, ce serait les assureurs qui prendraient le relais. Et au-delà de, je ne sais pas, 50, 60 ou 70%, ça serait l'État qui viendrait en complément. Mais pour ça, ce système, il est très bien. Mais il faut qu'on se base sur des données cohérentes, pas sur des historiques où vous allez impacter le viticulteur parce qu'il a été sinistré les années précédentes.
Arlette Chabot, c'est en tout cas un défi pour l'État, justement. C'est finalement ces sinistres à répétition.
Ce que j'entends, c'est qu'il y a une proposition de loi qui était en préparation. Il faut espérer qu'on ne va pas mettre 4 ans à trouver une solution et qu'il faut aller vite, évidemment. Parce que sinon, la question d'Éric était, comme d'habitude, tout à fait pertinente, c'est-à-dire le découragement d'un certain nombre de viticulteurs qui disent, ou d'agriculteurs d'ailleurs en général, qui disent on n'y arrive pas, et donc c'est plus possible. Donc effectivement, il faut aller vite et trouver un nouveau système pour que c'est pas satisfaisant de vivre de subventions ou d'indemnités, mais c'est mieux évidemment que de renoncer à faire ce qu'on aime.
Et surtout que quand on fait un métier par passion, vivre de subventions, c'est pas un plaisir, on le fait pas de gaieté de cœur.
J'ajoute un point qui à mon avis est fondamental dans la grille de lecture des assureurs. C'est que avec le changement climatique et la récurrence des phénomènes de gel ou au contraire de grêle ou au contraire d'extrême chaleur, les primes des assureurs qui sont calculées sur une sinistralité qui appartient, si vous voulez, à une période avant ce changement climatique, n'est plus du tout la bonne grille de lecture pour les agriculteurs, puisque par définition ils vont être victimes de beaucoup plus de phénomènes climatiques qu'avant. C'est l'une des répercussions terribles du changement climatique.
Bien sûr. Vincent Beekmalle, viticulteur, je rappelle, du domaine de Danis à Castelnau d'Auzin, La Barrère, dans le Gers. Donc merci d'avoir été avec nous, en tout cas ce matin sur Sud Radio. On vous souhaite bon courage, bien sûr, pour la suite, et puis que votre message puisse passer auprès du ministre que vous recevez tout à l'heure. Merci à vous.
Merci à vous également.
9h29 sur Sud Radio, l'occasion aussi de remercier Eric Revel qui était avec nous ce matin sur Sud Radio, ce lundi de la Pentecôte. Merci également à vous. Arlette Chabot, bonne journée à tous les deux. Allez, dans quelques instants, vous restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 10h dans le grand matin de Sud Radio avec un débat et un sondage qu'on vous dévoile ce matin sur Sud Radio. Le regard des habitants des villes taurines sur la corrida, les férias qui ont débuté ce week-end pour ou contre la corrida. On va en débattre bien sûr tout au long de cette dernière demi-heure sur Sud Radio. Vous pouvez nous appeler bien sûr 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio.